你来
我
来
我on a avec Pierre Damien Huyghe à la fin du mois de décembre, je crois, enfin dans le courant du mois de décembre, on a réfléchi ensemble à la manière d'enchaîner sur ce qu'on pourrait appeler la première partie du séminaire, parce qu'il était convenu que ce séminaire aurait deux parties. Une première partie qui s'est déroulée donc jusqu'au mois de décembre, une deuxième qui a commencé avec Nicolas Michelin et Armand Hatzfeld, et qui ouvrait la discussion des personnes de l'extérieur. Normalement, ça devait être le cas ce soir, mais il se trouve que pour des raisons tout à fait contingentes, aucune des personnalités que nous voulions inviter n'était disponible ce soir. Et puis finalement, j'ai proposé à Pierre Damien de faire une intervention pour essayer de faire un point et des propositions. Des propositions qui procèdent aussi du fait que j'ai pris des vacances et pendant ces vacances qui ont duré luxueusement 15 jours, j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai beaucoup réfléchi à ce thème qui nous occupe, aux interventions et aux propositions qu'a fait Pierre Damien, et j'en suis arrivé à une conclusion qui était que peut-être ce projet de colloque, dont ce séminaire est une instance de préparation, n'était pas très bien ficelé. Ou plus exactement, rencontrait une difficulté fondamentale avec quelque chose d'un peu bancal et qu'on n'arrivait pas à appréhender, à attraper, à qualifier, à conceptualiser tout simplement. Parce qu'il y avait quelque chose qui peut-être ne tournait pas rond dans la commande même, disons dans la question. La question, souvenez-vous-en, c'était les modernités. Donc, la thèse, dans une question, il y a toujours une thèse. C'était de dire, il n'y a pas la modernité, il y a des modernités. Ça, je pense que c'est vrai. Et que c'est une question intéressante qui mérite d'être examinée, et j'espère qu'on l'examinera dans ce cas-là. Puis il y avait aussi l'idée de dire, on va la sous-traiter, si je puis dire, cette question des modernités, la traiter en sous-points, en sous-parties, qui était post-modernité, hyper-modernité, anti-modernité. Bon, ce qui est une manière de catégoriser un peu bêtasse, mais dont tout le monde comprend ce que ça peut ouvrir comme perspective, et en particulier que ça voulait dire aussi que nous nous situions par rapport à la postmodernité, en faisant aussi l'hypothèse que peut-être cette période, que personnellement je crois être une période de la modernité, était en voie d'extinction. Je dis peut-être, et je me pose réellement la question. Je viens de lire un livre, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, absolument formidable. Je n'ai pas lu en entier ce que je viens de le recevoir, mais j'en ai lu le début. Donc d'ailleurs, j'ai honte de ne plus souvenir du titre, mais je me souviens du nom de l'auteur. C'est Marília Amorim, philosophe brésilienne, qui vient de publier un livre sur la métisse. La métisse, qu'est-ce que c'est que la métisse? Vous le savez, c'est l'intelligence de la ruse, sur laquelle Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant ont écrit un livre très important, et Marília Amorim, qui est une philosophe brésilienne, donc, a commencé par travailler sur les stratégies de survie des enfants des favelas, des enfants abandonnés des rues de Rio. Et elle a travaillé sur les ruses, ruses qui sont parfois d'ailleurs terribles, développées par ces enfants, en comportement de survie. Donc la métisse comme stratégie de survie, comme intelligence de la survie. Elle a travaillé sur ces questions il y a maintenant des années, une vingtaine d'années, et elle en est arrivée à une thèse qui est que peut-être nous vivons à une époque de la métisse généralisée. C'est-à-dire que le modèle des quartiers, je ne veux pas dire des quartiers pauvres de Rio, parce que des mômes abandonnés dans les rues de Rio, on a absolument partout, y compris dans les quartiers riches, puisque tout se mélange à Rio. Mais les modèles suburbains, appelons-les comme ça, de Rio, seraient en fait devenus le modèle général. Et elle rapporte ça à Jean-François Lyotard et à la modernité. Parce que maintenant, elle enseigne à Paris 8, et elle a suivi les cours des interventions de Jean-François Lyotard. Bon, et elle dit, en fait, la post-modernité, c'est l'intelligence de la métisse. Et d'un seul coup, je me dis, ah là, il y a quelque chose vraiment intéressant et nouveau. Quoi qu'il en soit, alors, j'en reparlerai avec Jérémien, mais je voudrais l'inviter, Marília Amorim. Pas dans ce séminaire, forcément, parce que je vais vous dire comment nous sommes en train de mettre en place des nouvelles modalités de travail d'ici au colloque. Mais je pense que la question que nous nous sommes posée, les modernités, n'est peut-être pas la bonne question. C'est une bonne question, mais ce n'est pas la bonne question. C'est-à-dire, question par rapport à quoi ? Genre, je t'attendrai pas de fermer la... Question par rapport à ce qui est mon problème. Alors, quel est mon problème ? Quel est ce « moi » qui parle ? Alors, moi, c'est Stigler, écrivain de bouquins, etc. Mais moi, c'est aussi directeur du département de développement culturel du Centre Georges Pompidou. Et si j'ai proposé qu'on travaille sur ce colloque, c'est parce que c'est le 30e anniversaire du Centre Pompidou cette année. Et que le Centre Pompidou est un endroit dit de modernité. Et comme je l'ai déjà dit, je m'excuse de m'en répéter encore une fois, deux ou trois fois ici, ce lieu de la modernité a en fait engendré la post-modernité. Et ça mérite rien qu'en soi, ça mérite d'être interrogé. Comment un lieu conçu pour la modernité a pu engendrer la post-modernité ? Alors vous me direz, c'est archi-classique, c'est toujours comme ça en réalité, certes. Mais quelles en sont les conséquences aujourd'hui, au moment où il y a quand même, ça branle pas mal dans le manche, quant à l'art contemporain et à l'art dit post-moderne, ces catégories sont d'une guimauvité, si je puis dire, aujourd'hui, quand vous discutez avec des spécialistes d'art contemporain, etc., absolument accablante, accablée par la guimauve. Et donc, l'idée de départ, c'était de dire, on va essayer de donner un peu de nerf à tout ça. Mais en même temps, moi je me dis, depuis 3 mois qu'on travaille sur cette question, que finalement on n'a pas réussi, on a ouvert des tas de questions intéressantes, Pierre Damien a ouvert toutes sortes de questions très intéressantes, mais personnellement, je pense que finalement nous n'avons pas encore réussi à partir de ça, à constituer une accroche véritablement qui permette de décoller. Dans un contexte où par ailleurs, je tiens à le signaler, c'était un troisième point très important pour moi de ce colloque, c'est que je souhaitais que ce colloque fût l'occasion de faire ce que j'ai appelé un atlas des modernités. Une chronocartographie des modernités. Quoi de la modernité ? Au Brésil, justement. En Amérique latine, plus généralement. En Amérique du Nord. En Europe, pas forcément occidentale, mais aussi de l'Est. Aux portes de l'Europe et de l'Asie que sont la Russie, la Turquie. En Afrique du Sud, en Chine, au Japon, enfin bon. Et si on regarde tout ça un petit peu sérieusement, on s'aperçoit qu'il y a des... Alors, c'est pas 3 ou 4 régimes de modernité, c'est des dizaines de régimes de modernité ou de modernisation. Peut-on parler, c'est une question que je vous pose d'ailleurs, de modernité en Chine ? Pardon ? Non, mais moi je vous la poserai la question tout à l'heure. Parce que vous connaissez un peu la région. Voilà. Peut-on parler de modernité dans tous ces pays où existe un processus de modernisation, mais dont je me demande si ça n'est pas une modernisation sans modernité? En l'occurrence, je me suis posé cette question en revenant de Moscou, où j'ai passé quelques jours, après, je l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai déjà fait une intervention au mois de décembre ici, après avoir enseigné 3 années de suite à Moscou, donc je connais un peu cette ville et ce pays, très compliqué, j'y suis revenu après 13 ans d'absence, et j'ai vu un pays absolument transformé d'une manière absolument incroyable, stupéfiante, mais j'y ai vu surtout le développement d'un capitalisme ultra-dynamique, mafieux, et sans bourgeoisie. C'est-à-dire sans modernité. Sur mon vélo pendant mes vacances, c'est à ça que j'ai réfléchi beaucoup, et j'en suis arrivé à cette conclusion. En réalité, en Russie poutinienne, il n'y a pas de bourgeoisie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modernité. Par contre, il y a un capitalisme ultra-modernisateur, mais d'une violence extrême. Y compris une violence, bien entendu, comme vous en avez entendu parler à propos, par exemple, de cette journaliste qui a été assassinée, et des assassinats, il y en a en permanence en Russie. Alors, c'est ce qui m'a amené à proposer de réorienter assez profondément la commande que nous nous faisons à nous-mêmes dans ce séminaire, donc avec un titre qui serait un double titre d'ailleurs, avec 2 points d'interrogation, la modernisation contre la modernité, point d'interrogation, la modernité contre la modernisation, point d'interrogation. Est-ce qu'au nom de la modernité, on n'est pas en train d'empêcher une modernisation ? Est-ce qu'au nom de la modernisation, on n'est pas en train de tuer la modernité? Cette séance que nous faisons donc aujourd'hui est une séance de discussion et de transition, et qui annonce aussi, qui introduit, si je puis dire, des séances suivantes, qui auront lieu sur deux registres. Un, qui va être en présence, un certain nombre d'interventions, dont en particulier, j'ai plus les dates en tête, je suis désolé, j'aurais dû les noter sur un bout de papier. Mais la prochaine sera Marcel Gauchet et Luc Boltanski, qui interviendront, je crois que c'est le 24 ou le 25 février, 26 février. La séance du 12 février, pour le moment, il n'y a pas d'intervention, et je crois que ça t'arrange pas, cher Damien. Tu ne peux pas être là. Donc je crois qu'on va purement simplement l'annuler. À moins que vous souhaitiez qu'on fasse quelque chose, et moi je suis tout à fait pour, si vous en aviez envie. Une séance de travail très ouverte, pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal. Une séance de travail pour préparer le colloque. Moi. Ensuite, début mars, nous aurons... Alors, d'abord, avec Marcel Gauchet et Luc Boltanski, qu'est-ce qui va se passer? Je les ai appelés. Marcel Gauchet est très intéressé par la chose, et y compris par cette question modernisation contre modernité. Et Marcel Gauchet, je lui ai demandé de venir pour une raison très précise. C'est que je pense qu'en France, dans ce qu'on pourrait appeler la condition postmoderne française, dans notre condition postmoderne des 20 ans écoulés, nous avons, et dans un contexte de lutte entre Sartre et Aron par ailleurs, qui remonte donc aux années 50-60, nous avons évacué Max Weber. Et en tout cas, moi j'ai évacué Max Weber, les althussériens ont évacué Max Weber, Derrida n'a jamais parlé de Max Weber à ma connaissance, en tout cas pas dans des choses centrales. Je ne crois pas que Foucault ait fait un travail sur Weber sérieux, Deleuze n'a jamais rien dit de Weber, et Lyotard non plus. Sans parler de Lacan et de tant d'autres, à ma connaissance. Et Bourdieu. Or Max Weber, c'est absolument fondamental pour poser la question, non pas de la modernité, je m'en fous de la modernité Max Weber, de la modernisation. Et d'autre part, je l'ai déjà dit ici dans une séance précédente, ma thèse sur la postmodernité, ce qu'on appelle l'époque postmoderne, qui commence à la fin des années 70, disons dans le courant des années 70, c'est que c'est le début du commencement de la fin, si je puis dire. C'est le commencement de la fin, de la fin de quoi? La fin du processus de désenchantement, décrit par Max Weber, tel que chez Weber, le désenchantement produit toujours du réenchantement. Ça, je l'ai déjà dit, je m'en excuse au mois de décembre, je me répète, mais... je le dis parce que c'est ce que j'ai dit à Gauchet. J'ai proposé à Marcel Gauchet de réagir là-dessus, et je lui ai aussi demandé de réagir sur Ulrich Beck. Ah, il m'a dit, premier point, oui, le deuxième, non. Premier, oui, m'intéresse, le deuxième, ça m'intéresse pas. Ulrich Beck, ça m'intéresse pas. Le vrai interlocuteur, c'est pas Beck, c'est Giddens. Je crois qu'il se trompe, personnellement. J'ai un désaccord tout à fait essentiel avec Marcel Gauchet sur ce sujet. Mais puisqu'il n'a pas envie de parler de Beck, on ne parlera pas de Beck avec Gauchet. Il ne faut pas forcer les gens dans la vie. Enfin, pas toujours, le moins possible. Et j'ai proposé à Boltanski d'avoir une discussion avec Gauchet sur cette question du désenchantement et du réenchantement. Et Boltanski m'a dit, le désenchantement, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Max Weber m'intéresse beaucoup, mais pas le désenchantement. Alors j'ai dit, ça c'est difficile de s'intéresser à Max Weber sans s'intéresser au désenchantement. Il m'a dit, oui, moi ce qui m'intéresse, c'est la rationalisation. J'ai écrit un livre où je parle beaucoup du discours de Boltanski sur le désenchantement et sur Max Weber. Bon. Mais il m'a dit, néanmoins, ça m'intéresse de venir participer à votre séminaire, tout ça est passionnant, donc je vous fais une proposition, je vais vous parler de deux textes sur la modernisation. Un qui a été publié dans les années 60 aux éditions du Seuil, qui est co-signé par un certain nombre de grands noms, dont Claude Lévi-Strauss, La modernisation de la France, édition du Seuil, et un autre qui a été publié par Boltanski et Bourdieu dans les annales de la recherche en sciences sociales dans les années 70, là aussi sur analyse des politiques de modernisation de l'État français. Très intéressant, ça. Au moment où apparaît, pour moi, le tournant dans le désenchantement, Bourdieu et Boltanski sont en train de faire une... Alors ils proposent de faire, dans un après-coup de 30 à 40, voire 50 ans, une lecture de ces textes. Bon, voilà, ça sera la séance de fin février avec Marcel Gauchet et Luc Boltanski. Ensuite, nous aurons avec Jean-Pierre Dupuis et Bruno Latour, début mars, une séance autour de Beck et de la question de la catastrophe. Puisqu'aussi bien Dupuis que Latour s'intéressent à la question de la catastrophe, et Latour est l'introducteur de Beck en France, en réalité. C'est lui qui a œuvré pour la traduction de La société du risque et qui l'a préfacé. Donc, nous ouvrirons là une discussion et nous verrons jusqu'à quel point on peut discuter de Max Weber avec Bruno Latour et Jean-Pierre Dupuis aussi. Sachant que Jean-Pierre Dupuis pose évidemment d'autres problèmes très importants, qui sont les problèmes liés aux technologies transformationnelles dont j'ai parlé au mois de décembre, technologies transformationnelles dont je considère pour ma part qu'elles constituent une explosion axiomatique de la modernité. Je veux dire par là que la modernité, qui, si on la qualifie philosophiquement, commence avec Descartes, maîtrise et possession de la nature, suppose une stabilité du socle de la physis, c'est-à-dire pour pouvoir se rendre comme maître et possesseur de la nature, encore faut-il qu'il y ait une nature et que cette nature ait une certaine stabilité. Voire, on dirait dans un langage beaucoup plus récent, une métastabilité. Or, les technologies transformationnelles font totalement exploser ce socle. Et donc, je ne crois pas que les modèles issus de la modernité philosophique soient capables, en quoi que ce soit, d'accrocher cette réalité. Dernier point, nous aurons une séance avec Dany Robert Dufour, François Richard et peut-être Marilia Amorim, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a donc travaillé sur les favelas et les enfants de Rio qui développent des stratégies de métis. Pourquoi est-ce que nous parlons de ça? Pour revenir vers une question de la question du sujet, et je dirais même du sujet freudien, du sujet symbolisant, autrement dit, à l'époque, de ce que Dufour et Amorim appellent la postmodernité et de ce que François Richard interroge comme un effondrement symbolique du sujet moderne. Enfin, du sujet, disons, contemporain. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on va faire dans les séances qui viennent, et je vais proposer à Pierre Damien et à vous qu'on propose d'autres séances, parce que je pense qu'il va nous falloir au moins 2 ou 3 séances supplémentaires. Déjà une pour conclure. De toute façon, celle avec Dufour, François Richard et Amélie Amorim, il n'y avait pas de date dans les dates qui étaient prévues, donc là, ils en font rajouter une. Il faut une séance de conclusion pour en faire une deuxième, et à mon avis, il faudra sûrement inviter quelqu'un d'autre. Bon, on verra. Mais parallèlement à cela, c'est ce qui explique pourquoi il y a une caméra en ce moment qui tourne. Avec Florent Lâche et Roger Rotman des forums de société et département de développement culturel, nous allons généraliser une pratique qui a été lancée d'ailleurs par Roger dans d'autres occasions, dont cette occasion-là aussi, qui est d'aller interviewer des gens et de les filmer, en leur demandant non pas de faire une communication dans un séminaire comme ça ou une conférence de colloque, mais en les interpellant avec des questions précises. Et si j'ai proposé finalement de faire ainsi, c'est d'abord parce que c'est très intéressant d'interviewer des gens, et ne pas leur demander de faire des conférences, leur poser des questions très précises. En soi, c'est très intéressant. Deuxièmement, de le faire sans public, c'est-à-dire qu'ils puissent, devant une caméra, avec une seule personne, ou sans personne, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, répondre à ces questions, en prenant tout leur temps, 5 heures s'ils le veulent. Parce que ces caméras permettent d'enregistrer 14 heures de vidéo, sans arrêt, une caméra à disque dur, et que nous voulons faire cet atlas chrono géographique dont je vous parlais tout à l'heure, des questions non plus de la modernité, mais de la modernisation dans le monde, à travers une 30aine de sollicitations que nous voudrions faire, avec un dispositif qui reposera sur l'idée d'envoyer un DVD avec des questions précises à des personnes qui sont sur les choses dont on parle dans ce séminaire, et notamment des choses que je vais développer maintenant, et on va leur demander de réagir à un certain nombre de questions, et des questions qui seront génériques, qui sont communes à ces 30 personnes. Je ne vais pas vous donner la liste ici parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais je peux vous dire qu'il y a des gens extrêmement variés. Frédéric Jamson aux États-Unis, donc des gens très connus. Pamuk en Turquie, des gens beaucoup moins connus. Des gens aussi en France, comme Pierre Legendre, par exemple, comme des très grandes personnalités. Et l'idée est de décrire les processus de modernisation, donc sur tous les continents, et d'ouvrir le colloque dès le mois de mai, en ligne, avec ces vidéos qui seront indexées, taguées avec les lignes de temps, qui est un logiciel que nous avons développé ici, ce qui nous permettra, avec ces enregistrements, de pouvoir naviguer dans les enregistrements par des index, de pouvoir faire des montages très souples avec le logiciel, parce que ce logiciel permet de faire un montage extrêmement rapidement. Et nous mettrons tout ça en ligne pour configurer la revue amateur qui sera lancée au mois d'octobre avec le colloque qui n'est donc plus modernité, mais modernisation contre modernité. Et cela, ça donnera aussi lieu à des transcriptions pour une partie, à des sous-titrages, parce qu'il y aura des interventions en chinois, en japonais et en anglais. George Collins va nous accompagner pour tout ce qui est la prise de contact, notamment dans le monde anglophone. La prise de contact, aussi la traduction dans les deux sens, français, anglais, anglais, français. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela, mais si ça vous intéresse, à la fin, je vous donnerai plus de détails, ou Florent vous en donnera. J'ai sondé un certain nombre de personnes sur ces hypothèses dans les différents pays, et les réactions sont évidemment, enfin évidemment, c'est pas si évident ça, mais les réactions sont plutôt extrêmement positives et même enthousiastes. Mon idée est de dire qu'avec ce système, la revue L'Amateur consistera à permettre aux gens de se mettre en ligne avec leur propre webcam, etc., donc de contribuer au colloque bien avant que le colloque ne commence. Il s'agit d'ouvrir une discussion mondiale en multilingue, bien avant que le colloque n'arrive. Et le colloque qui se tiendra en octobre ne sera que la conclusion du colloque. C'est-à-dire, à un moment donné, le rendu public aux autorités françaises qui nous payent, il faut bien qu'on leur donne quelque chose, pour qu'ils en aient pour leur argent. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de créer une discussion mondiale. Le Centre Pompidou, c'est fait pour ça. Alors, je voudrais maintenant développer les thèses qui m'ont conduit à proposer cette réorientation assez radicale, finalement, si vous avez bien compris, de la manière de faire et de penser et de problématiser. Le contexte fondamental, c'est ce que j'avais développé ici au mois de décembre, je crois que c'était le 16 décembre, c'est le temps de l'impuissance. La modernité, c'est un discours de la puissance. Se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est un énoncé de puissance. Cette puissance qui commence bien avant Descartes, en réalité, qui commence effectivement dès le Moyen-Âge, à travers la bourgeoisie montante, l'humanisme, qui passe par le prince de Machiavel, par toutes sortes de choses, c'est un discours qui va se produire jusque en France, par exemple, à travers l'administration du général de Gaulle, ce dont parle Claude Lévi-Strauss, les annales de la recherche en sciences sociales, etc., qu'analysent Bourdieu et Boltanski. Bon. Il y a une espèce de continuité de croyance dans la puissance de la modernité tout à fait extraordinaire. Extraordinaire pour nous de stabilité, mais au regard du temps des sociétés, extraordinairement courte en réalité. C'est très long pour nous, compte tenu de la vitesse à laquelle les choses changent. Parce que imaginez que la société des années 70, si vous y retrouviez maintenant, vous n'en croiriez pas à vos yeux. Il suffit de regarder les films qu'on a vus de Jean Eustache. Bon, on se dit, c'est je rêve. Bon. Mais, en même temps, c'est très court au regard du temps historique, c'est-à-dire les temps. La modernité n'aura pas duré, si jamais elle était finie, si on en croyait Lyotard, n'aurait pas duré bien longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait parler d'une fin de la modernité? C'est la fin d'un projet de puissance, de maîtrise, qui se traduit par une impuissance politique. Nous sommes en train de vivre ça en France d'une manière singulièrement dramatique, peut-être bien plus grave encore que l'Italie de Berlusconi, peut-être bien plus grave. Nous serons peut-être le pays qui va décrocher le premier en Europe. Impuissance théorique, il n'y a qu'à voir la misère des intellectuels français aujourd'hui. Leur désarroi, leur désorientation incroyable, leur absence de dialogue total, leur quant à soi scandaleux, minable, leur petite protection de leurs privilèges, et impuissance artistique. Parce qu'il n'y a pas de grande figure qui s'affirme comme une grande puissance d'individuation, comme il y a eu des Picasso, des Léonard et de tout ce qu'on veut. On pourrait aussi parler d'impuissance économique. L'économie se fait à l'aveugle, avec un Jean-Luc Gréaume qui se met à écrire, ancien conseiller du MEDEF et de M. Denis Kessler, qui se met d'un seul coup à écrire un livre sur l'avenir du capitalisme, où il dit « Le capitalisme va se casser la figure », après 15 ans de MEDEF. Pourquoi? Parce qu'il dit « Il n'y a plus de puissance d'anticipation ». Bref, une situation de blocage. Pendant que, par ailleurs, de nouvelles puissances apparaissent, qui n'apparaissent pas du tout bloquées. Le Japon. Ça, c'est pas nouveau. Alors, ce Japon est un pays très spécial. C'est un pays qu'on appelle des nouveaux acteurs, mais qui lui a un discours sur la modernité. Il y a une modernité japonaise, et c'est un sujet fondamental, la modernité au Japon. Mais aussi, bien entendu, ce qu'on a appelé les dragons. La Chine, maintenant, qui ne fait pas partie des dragons, qui est véritable continent à elle toute seule, une puissance comparable aux Amériques du Nord et du Sud associées, dans ses fondamentaux économiques, dans son histoire, énorme culture. Le seul empire qui existe depuis 5000 ans et qui n'a pas cessé d'être un empire, si on admet que même la révolution culturelle a maintenu une structure impériale, etc. Mais aussi d'autres puissances, le Brésil précisément, qui est une très grande puissance économique, la Russie qui est en train de monter, qui est une puissance ultra-mafieuse, mais une très grande puissance atomique, énergétique, stratégiquement située d'une manière extraordinairement avantageuse pour elle, etc. Bon, bref. Je ne vais pas développer tout ça. Et puis aussi de nouvelles formes de puissance en termes de métis, pour reprendre l'expression de Marilia Amorim. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle métis? Le marketing, c'est une ruse de l'intelligence. Ce qu'on appelle l'intelligence économique, telle que la pratique George Soros, etc., c'est encore une ruse de l'intelligence, portée à un niveau tout à fait nouveau, qui ne relève pas de la modernité classique en tout cas. Les technologies de contrôle dont parlent Burroughs et Deleuze, telles qu'elles permettent finalement de développer ce que j'appelle moi, dans un livre que j'ai titré comme ça, des sociétés incontrôlables. C'est-à-dire des sociétés comme les enfants de Rio, qui fonctionnent sur cette base-là, et qui conduisent évidemment non seulement à Ben Laden, mais à la terreur généralisée. Donc, nous sommes dans une situation éminemment paradoxale, qui a fait changer de point de vue Bruno Latour, Jean-Pierre Dupuis, je les connais très très bien, depuis très longtemps, je travaille sur eux depuis longtemps. Marcel Gauchet, on l'a vu l'autre fois. C'était stupéfiant, quand même, pour moi de l'entendre, et je m'en réjouis. Jean-Pierre Dupuis, qui a été un porteur de discours de l'individualisme méthodologique, etc. J'ai ferraillé avec lui il y a 20 ans sur ce sujet, bon, maintenant il est complètement sur une opposition. Bruno Latour, qui a complètement intégré Ulrich Beck, le risque et tout ça, c'est alors qu'il avait quand même une position avant, une espèce de tranquillité, les choses avançant comme... Non, c'est la panique. C'est la panique. La panique créée par ce paradoxe que la puissance augmente d'autant plus qu'elle produit de l'impuissance. Et bien entendu, nous avons tous un peu peur de cette confrontation qui pourrait conduire à un conflit, par exemple, sino-américain. C'est quand même une chose évoquée très régulièrement, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, et bien entendu en Europe. Alors, ici, en réalité, le problème, ce n'est pas la modernité. Ce n'est même pas les modernités. C'est la modernisation. Nous sommes confrontés à une question de la modernisation, y compris au sein de Georges Pompidou, où la CFDT vient de publier un tract scandaleux. Scandaleux. Non, c'est pas hors sujet, parce que pour moi, tout est toujours dans le sujet. Un philosophe parle de la réalité. J'en parle parce que je vois sortir un papier, je me dis, mais c'est la lepénisation d'un syndicat, quoi. En tout cas, c'est une réaction contre la modernisation, très clairement. Donc ça fait partie du sujet interne du Centre Georges Pompidou, et moi, ce colloque sur la modernisation, je veux qu'il soit en direction du personnel du Centre Pompidou, du ministre de la Culture, du président de la République qui va être élu, des artistes, etc., et comme une façon de discuter enfin sérieusement et pas en blablatant dans les couloirs. La question de la modernité, elle doit être posée depuis ce problème de la modernisation. Parce que par ailleurs, moi je tiens à la modernité. J'ai proposé de poser ce problème parce que dans des ouvrages depuis quelques années maintenant, je me suis un peu opposé au point de vue de Jean-François Lyotard, qui était par ailleurs un ami très proche et dont j'estime énormément le travail, mais dont je pense que sur ce point, il y a quelque chose qui ne s'est pas pensé jusqu'au bout, et qu'il faut reprendre le métier, le sujet, le remettre sur le métier plus exactement, à savoir que, effectivement, pour bien penser la modernité, il faut penser la modernisation. Et si je puis dire, pour pouvoir vouloir la modernisation, quand on est un Européen de l'Europe occidentale, ce qui est mon cas, pour une part aussi quand on est un Américain de l'Amérique du Nord, ce qui est le cas de beaucoup de nos interlocuteurs, on pose qu'une modernisation doit avoir un projet. Et ce projet qui conduit une modernisation, c'est ça, à mon avis, qu'on appelle la modernité. Sachant qu'il y a des modernités, bien entendu, et des projets. Ça, c'est ce que nous posons, et face à ce que nous posons en disant cela, une réalité s'impose à nous, c'est une modernisation sans projet de modernité. sans maîtrise, sans aucune, avec cette fameuse exemplification de Shanghai qui pousse comme ça, de manière absolument anarchique, mais qui pousse avec un taux de croissance de 10% dans ce pays, de façon absolument vertigineuse, et là on se dit tout décroche. Nous les Européens, nous avions décroché par rapport aux Américains du Nord. Les Américains du Nord avaient peut-être décroché à un moment donné par rapport aux Japonais, parce qu'il y a un moment donné, souvenez-vous, maintenant on l'a oublié, mais il y a 20 ans on disait le Japon va éjecter, et ça a été le cas, parce que le Japon a repris toute l'électronique grand public aux Américains, ce qui n'est pas rien. Et maintenant nous disons les Japonais, les Américains et les Européens sont éjectés par les nouveaux pays industriels, en particulier la Grande Asie, mais pas seulement, la Russie, l'Afrique du Sud, pour une part, et le Brésil. Et nous nous retrouvons finalement dans une période qui produit le pire et le meilleur, et parfois le meilleur dans le pire, et le pire dans le meilleur, je pense à Jean Clair par exemple, de discours d'une ce que j'appelle une modernité malheureuse ou une modernisation malheureuse. Nous, quand je dis nous, alors de qui parle celui qui dit nous, là, j'en sais trop rien. Enfin, moi je suis un Européen. Ou disons, alors qu'est-ce que ça veut dire que, de dire je suis un Européen? Parce que je connais plein de gens qui ne sont pas des Européens et qui sont comme moi. Mais je dirais que je suis imprégné d'une culture issue. De quoi? D'une modernisation qui s'est voulue comme modernité. Et qui a produit toutes sortes de choses, parfois extrêmement contradictoires, dans lesquelles on trouve les droits de l'homme de 89, le discours de la méthode, les modèles de production de Henry Ford, toutes sortes de choses. L'art moderne, bien entendu. Les avant-gardes, qui ne sont plus tout à fait simplement l'art moderne, peut-être, etc. Et puis des projets politiques, des projets économiques, des projets scientifiques. Et cette culture à laquelle j'appartiens et à laquelle j'appartiens avec des tas de gens sur tous les continents, parce que je connais des gens en Russie, au Japon, en Asie, en Afrique, qui procèdent aussi de telle culture. Par exemple, John Russell, qu'on proposera, à qui on va proposer de parler de l'Afrique du Sud et de la modernisation de l'Afrique du Sud en ce moment, c'est un Africaner. Il considère qu'il appartient à cette culture. Il vit en Afrique du Sud. J'ai des amis en Chine qui sont des philosophes chinois considèrent qu'ils appartiennent. Il n'y a plus la culture occidentale. Il y a une culture d'une modernité qui a circulé. Mais cette culture d'une modernité qui a circulé, qui n'est plus simplement occidentale, et c'est de ce nous-là dont je parle, c'est à partir de ce nous-là dont je parle, que je parle, pardon. Eh bien, cette culture rencontre aujourd'hui une hétéronomie absolue, qui est une modernisation qui lui fait un bras d'honneur, et qui dit, je m'en fous de votre culture moderne. Moi, je suis un magnat du pétrole russe. J'ai quelques tueurs pour me protéger et pour éliminer mes concurrents. C'est ça la modernité d'aujourd'hui. C'est ça la transformation d'aujourd'hui. C'est ça le capitalisme. Et c'est ce que nous vivons en effet. Et ça nous fait peur. Et il y a de quoi avoir très peur. C'est extrêmement dangereux. L'enjeu de ce colloque pour moi est là. Et quand je dis que je veux rester personnellement affirmateur d'une modernité, c'est que je me refuse à considérer qu'une modernisation sans projet puisse être un avenir pour moi, pour mes proches, pour mes amis et pour la planète. Je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, personne n'y croit. Et je m'intéresse beaucoup à des fondamentaux comme le fait qu'il y a 15% de la population chinoise en dépression nerveuse et que maintenant il y a eu une identification de ce processus à la modernisation. C'est très clair, hein, il y a eu des tas d'articles là-dessus et il y a des rapports officiels des services de santé publique chinois qui le disent. Je me suis intéressé avec mon ami Ishida au Japon aux hikikomori et aux otaku qui sont des cas de décrochage psychique dans la jeunesse. 1 million de cas identifiés au Japon d'enfants considérés comme dangereux pour leurs parents, etc. Bon. Ce sont des phénomènes massifs, ils sont absolument transnationaux, sans parler de ces enfants de Rio, dont je parlais en commençant. Et qui sont des enfants qu'on va avoir dans nos banlieues bientôt. Ça commence déjà. Alors, voilà, pour moi, le sujet de ce colloque et de ce séminaire, c'est cela. Je m'aperçois que mes... c'est le bazar total dans mes feuilles. Alors là, je sais, comme elles ne sont pas numérotées, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bien embêtant. Bon. Alors, je crois que je vais devoir un peu improviser. Je suis vraiment désolé parce que il m'est arrivé. En tout cas, pour revenir, pour vous donner quelques exemples sur ce que j'appelle la chronocartographie de la modernisation et de la question de la modernité à l'intérieur de cette modernisation. Je dirais que, par exemple, pourquoi est-ce que nous voulons absolument solliciter des penseurs et des écrivains turcs? C'est parce qu'en Turquie, la question de la modernisation et de la modernité, dans ce cas-là, c'était les deux, a été portée par Atatürk comme question de la laïcité. Pas comme développement d'une grande industrie, etc. Par ailleurs, il y a eu un développement industriel de la Turquie, etc. Mais ça s'est porté comme une question de la laïcité. En Afrique du Sud, Jean Rousseau, dont je parlais tout à l'heure, dit qu'est-ce que c'est que la modernisation sans modernité, là, pour le coup. Parce que l'ANC, me dit-il, a totalement renoncé à toute modernité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir totalement renoncé à toute modernité, ça veut dire laisser jouer le marché à fond, en disant c'est comme ça qu'on va transformer. Eh bien, c'est précisément le marché qui rentre à travers le marketing. L'Afrique du Sud est envahie par le marketing. Et ce que m'a dit Jean Rousseau, il m'a parlé dans un article qui, d'ailleurs, résumait, malheureusement, en l'écorchant un petit peu sa position, parce que, c'est comme tous les articles de presse, c'était une espèce de compromis resserré. Là où on attendait de l'ANC en Afrique du Sud, de redonner une tissularité aux populations africaines noires, etc., et donc de reconstituer de la société noire, à la place les camps là, dans lesquels étaient parqués les townships, eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'on fait d'après lui, hein? Et c'est un Afrikaner pro-ANC qui parle, au départ en tout cas. D'après lui, ça aboutit en réalité à une vectorisation de toutes les communautés ethniques noires par ces logiques de marketing et finalement une destruction ultra rapide de toutes ces structures sociales. Et une société maintenant qui est intégralement sous la domination du marketing, d'après lui. Au Japon, comment les choses sont-elles entrées? Par la technologie. On le sait bien, ça a été énormément étudié, commenté, etc. Le Japon, c'est le pays de la haute technologie, sur une stratégie d'adoption de la technologie. En Amérique, la modernité qui s'est développée, l'Amérique, on peut dire, est réellement un pays absolument moderne, peut-être bien plus moderne encore que l'Europe, mais ça n'est pas la modernité européenne. Mode de vie américain, ce qu'on appelait the American way of life, ça n'est pas du tout un concept de modernité européenne. À l'Est, aujourd'hui, notamment la Russie, mais pas seulement la Russie, qu'est-ce que c'est que la modernisation, sans modernité, donc, disais-je tout à l'heure, c'est le retour au capitalisme comme privatisation sans bourgeoisie et sans aucun complexe, etc., etc. Alors, j'y comprends rien, c'est imprimé des deux côtés en plus, je suis vraiment désolé. Personnellement, je considère qu'une telle situation mondiale est intenable, qu'il faut la réinvestir d'un projet politique, que le gouvernement des choses exclusivement par un capitalisme qui est lui-même piloté désormais par la financiarisation, c'est-à-dire par l'ultra-court terme, ne peut conduire que à l'exacerbation des contradictions et donc au déclenchement des conflits, et que par conséquent, il est absolument fondamental de réarmer une action économique et politique capable de produire de la vision à moyen et à long terme. Et je pose que la condition de possibilité de cette évolution, c'est de mettre la technique au cœur de ces questions. Car ce qu'on appelle la modernisation, c'est toujours, de près ou de loin, l'adoption de processus techniques et ou technologiques qui viennent absolument bouleverser les autres systèmes sociaux. Et par conséquent, et ça c'est une manière de dialoguer avec ce qu'on appelle le post-structuralisme et la postmodernité, il faut remettre sur le métier, là aussi, la question de la technique. Il faut revisiter ces problématiques qui ont été portées par Foucault, avec le biopouvoir, par Deleuze. Alors ce n'est ni le post-structuralisme, ni la postmodernité, là pour le coup, mais c'est ce qu'on appelle la French Theory. Et revisiter toutes ces questions à travers la question de la technicité. Sachant que, comme je l'ai dit, dans mon intervention du mois de décembre, tout cela suppose l'investigation de ces questions par le concept de ce que j'ai appelé un processus de grammatisation. En l'occurrence, pour moi, ce qu'on appelle la modernité, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre de conditions de discrétisation du continu, que ce soit par l'engrenage adopté dans les, je pense que Le Goff en parle, dans les monastères au Moyen-Âge, que ce soit par les techniques de comptabilité qui commencent à apparaître au XVIe et au XVIIe siècle, que ce soit par l'algébrisation de la physique, ou que ce soit par la discrétisation des gestes de la production de l'ouvrier qui du coup devient un prolétaire à travers la machine-outil. Tout ça fait partie de ce que j'appelle la grammatisation, et cette grammatisation, c'est pas simplement une grammatisation de l'esprit, c'est une grammatisation des corps, qui rend possible le passage d'abord à ce que Foucault décrit comme une société disciplinaire, et ensuite à ce que j'appelle après Foucault et Lorenz les sociétés de contrôle, qui deviennent incontrôlables. Tout ça, en réalité, si on le lit avec Max Weber, on appelle ça le processus de désenchantement et de rationalisation. C'est exactement ça que décrit Max Weber. Sauf que Max Weber ne traite pas du tout l'aspect de la technicité. Il le mentionne, il le dit régulièrement, il dit s'il n'y avait pas les livres de compte, s'il n'y avait pas l'imprimerie, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, ça serait impossible. Luther ne pourrait pas exister. La bourgeoisie, enfin le capitalisme qui contrôle par la comptabilité, la rationalisation de la comptabilité, c'est ça le concept de base, hein. Capitaliste, c'est celui qui rationalise la comptabilité et qui, à partir de là, peut contrôler la production et la consommation et les mettre en relation. Ce qu'on appelle le pré-capitaliste du XVIIIe siècle de Pennsylvanie, c'est ça. C'est celui qui maîtrise les outils de contrôle par la comptabilité. Ça suppose une appropriation du processus de grammatisation issu de l'imprimerie. Et ensuite, ça se développe évidemment à travers des techniques qui sont le métier jacquard, la machine de John Kay, la navette. Dont Adam Smith va faire un commentaire qui va conduire à une théorisation de l'économie, puis tout ce que va décrire Karl Marx dans la construction de la prolétarisation du travailleur. Alors, je crois que nous sommes aujourd'hui confrontés à une modernité malheureuse ou une fin de l'histoire de la modernité comme histoire de la maîtrise et de la puissance. Je crois que Lyotard, Deleuze, Derrida, Foucault, etc. ont commencé à théoriser cette impuissance. Je vous rappelle que la première page ou la deuxième page de la grammatologie de Derrida, ben non, c'est pas, dit nous entrons dans l'ère de la monstruosité. Que Lyotard commence en disant la condition postmoderne, en disant nous sortons, nous sommes décilés, nous allons enfin nous être enfin malheureusement peut-être, mais confrontés à des choses où le sujet maître et possesseur de la nature se casse la gueule de manière lamentable, et Deleuze, bien évidemment, à travers en particulier l'Anti-Oedipe et Émile Plateau, développe ça, je dirais, en allant encore beaucoup plus loin. Tout ça est très puissant, et en même temps, tout ça rencontre des limites, parce que pour moi, une philosophie, c'est une philosophie de l'action. Une philosophie qui ne permet pas d'agir n'est pas une philosophie. C'est une spéculation plus ou moins oiseuse. Une pensée qui n'est pas une pensée capable de se traduire en schème moteur et en grille de décision n'est pas une pensée. Ça s'appelle chez Hegel une ratiocination. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où ces grands personnages très puissants qu'ont été Lyotard, Deleuze, Derrida, Foucault, mais aussi d'autres, Althusser avant, Lacan, etc., et qui sont morts trop tôt pour pouvoir produire des schèmes d'action avec leurs pensées, et il ne faut pas les laisser entre les mains des ergoteurs et des appropriateurs d'héritage qui en général les dilapident. Et il faut que nous ouvrions une discussion avec ces héritages, et moi je propose cette discussion, elle s'ouvre à travers différentes thématiques, dont la question de la technique. Et donc, d'autre part, une confrontation avec Ulrich Beck, dont je considère qu'Ulrich Beck est un auteur important, très important. Quand je dis que je le considère très important, ça ne veut pas du tout dire que je suis d'accord avec ses thèses. Je suis assez fondamentalement en désaccord avec ses thèses. Mais moi, l'importance que j'accorde aux gens ne correspond pas du tout à l'estime que je leur porte ou à l'accord que j'ai avec eux. Je suis en désaccord avec beaucoup de choses, en particulier avec cette théorie que Beck partage avec Lyotard, parce qu'il s'oppose à Lyotard, il écrit contre Lyotard. À savoir qu'il considère qu'on est rentré dans une société post-industrielle, et ça, je pense, c'est une hérésie complète. Mais en revanche, les problématiques de modernité réflexive qu'il pose sont des problématiques extrêmement intéressantes. Même si je crois qu'il loupe fondamentalement la question centrale, un petit peu comme Louis Boltanski harponne dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme des questions très importantes, mais à mon avis loupe la question centrale, et c'est la même question qui est loupée, c'est la question de la libido. Ce qui fait de Max Weber une pensée fondamentale, c'est que c'est une pensée de la motivation. Or, depuis le début du XXe siècle, la motivation, nous savons que ça se pense avec la libido. Donc avec une théorie, avec des théories freudiennes de la motivation, qu'il faut explorer. C'est ce qui m'amène à dire que si nous voulons repenser la modernité, confrontés que nous sommes au blocage de la modernisation, qu'elle est devenue aujourd'hui, parce qu'au nom de la modernité, nous nous opposons à la modernisation, alors que nous sommes obligés de passer par la modernisation. Il faut que nous repensions la modernité comme une économie libidinale. Et une économie libidinale qui ne cesse de se transformer, et qui ne cesse de se transformer par quoi ? Par une organisation de l'investissement. Vous savez bien que l'investissement, c'est un concept freudien. Le désir investit, il investit ses objets. L'investissement, au sens où Weber commence à le décrire, où Marx l'analyse comme étant ce qu'il appelle, lui, le capital, c'est une organisation du désir. C'est une organisation de la libido, c'est une organisation de la sublimation. Un investissement qui ne serait pas un investissement dans l'objet du désir, et dans l'objet du désir en tant qu'il est commun, et pas simplement singulier, c'est-à-dire singulier au sens où il serait « mon désir et tu n'as pas le mien », mais au sens où il y a toujours, pour que les désirs puissent se rencontrer et s'individuer et produire du social, c'est-à-dire de l'avenir, il faut bien qu'à un moment donné il se projette, et bien ça c'est ce qui s'effondre dans le désenchantement, parce que le désenchantement c'est la mort de Dieu, et Dieu c'était l'objet de tous les désirs. C'est ce qui organisait avant la modernité l'objet de tous les désirs. Et cet objet de tous les désirs, avec la modernité, s'effondre, mais renaît de ses cendres comme un phénix, à savoir comme, par exemple, modernité socialiste. C'est-à-dire que Dieu est mort, mais un avenir nouveau, mes camarades, s'ouvre, qui est le communisme. Ou le socialisme de Blanqui, ou l'anarchisme de Proudhon, etc. Ou bien, c'est la démocratie de Tocqueville, qui nous promet que, bien sûr, ce monde des Américains, on y comprend. Mais il y a du politique, comme dirait Marcel Mauchet. Il y a du politique. Il y a quelque chose qui est au-delà des intérêts particuliers, etc. Et ça peut se produire. Ou bien, on va dire, avec Manet ou Baudelaire, oui, Dieu est mort, il n'y a plus que des asperges, il n'y a plus de commémoration, de peinture édifiante pour la royauté, la chrétienté ou la république, mais il y a le visible, il y a Elstir, comme on dirait dans chez Proust, etc. Et donc, il y a un au-delà de la quoi ? De la calculabilité. Car finalement, l'organisation de l'investissement par la modernité, c'est la soumission de tous les objets d'investissement à une calculabilité, que ce soit celle de Descartes, que ce soit en optique ou dans sa méthode, avec sa mathésis universaliste, celle de Leibniz comme algèbre et, comment il appelle ça, caractéristique universelle, celle du prince de Machiavel, celle de Benjamin Franklin, qui dit le dieu de Calvin, c'est un dieu calculable, on peut et on le paye en dollars, etc. Ça, c'est la modernisation, c'est la rationalisation. Mais en même temps, cette rationalisation, elle produit sans cesse du réenchantement. C'est un désenchantement, mais qui produit de nouveaux enchantements. L'art moderne, la révolution, les Beatles, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a un moment où ce désenchantement atteint son terme. Comme je l'avais dit au mois de décembre, il y a eu un enchantement absolu, c'était le monothéisme. C'était un pouvoir absolu de l'objet de tous les désirs qui régnait en maître total. J'aimerais bien interviewer Pierre Legendre sur ce point. Ça a organisé l'Occident pendant très longtemps, et pas seulement l'Occident. Puis il y a eu un désenchantement relatif, c'est-à-dire un réenchantement relatif. Bien sûr, il n'y a plus d'unité globale, mais relativement, il y a un art moderne, relativement, il y a une science édifiante, etc. Et relativement, il y a un avenir à tout ça. Que ça s'appelle Malraux, que ça s'appelle le Parti communiste français, la résistance, on y croit, moi. Et puis maintenant, il y a un désenchantement absolu. Un désenchantement sans réenchantement. En réalité, si on veut traduire ces questions dans des termes que j'espère rigoureux, on doit dire que ce qui s'est produit avec ce que Weber appelle le désenchantement, c'est une intégration progressive de l'osium dans le négocium. Je veux dire par là que ce qui est apparu avec la bourgeoisie, que dans ma jeunesse, nous identifions avec le capital. Moi, j'ai été dans la stratégie de la lutte classe contre classe. Bon. Et c'était le prolétariat, c'est-à-dire les gueux qui n'ont rien, pas d'argent, pas de moyens de production, pas de savoir, absolument rien, pas de temps, contre les bourgeois qui ont tout, les moyens de production, le fric, l'éducation des enfants, etc. Et qui était représenté pour moi par le général de Gaulle, André Malraux, et tant d'autres. Eh bien, cette représentation du capitalisme, c'est une représentation d'un capitalisme qui détenait l'accès à la culture et qui était transmetteur de la culture. De ce que, depuis les Romains, on appelle l'osium, et ce que chez les Grecs, on appelait la scolae. Et je tiens toujours à passer par là pour plusieurs raisons. Mais d'abord parce que les objets de l'osium sont les objets de l'incalculabilité. Un objet de l'osium ne peut pas être calculé, par nature. Par contre, il peut être cultivé, pratiqué, célébré, transmis, et il faut en prendre soin. Il appartient à ce que j'appelle les plans de consistance, donc il n'existe pas. L'objet de l'osium n'existe pas, il est de l'ordre de l'improbable radical. Par exemple, le beau. Le beau n'existe pas, j'ai déjà développé ça souvent. Pendant très longtemps, l'osium, en Europe d'ailleurs comme en Asie, c'est le privilège des nobles, c'est-à-dire des guerriers. Certains m'ont déjà entendu dire ça, Georges Collins en particulier, et je m'excuse de me répéter, au moins pour toi, mais peut-être d'autres, Jean-Paul Carpentier aussi, on a déjà entendu parler de ça. Il m'est arrivé une histoire absolument formidable l'année dernière, mais vraiment absolument formidable, comme il n'en arrive qu'une fois dans la vie. J'étais invité par Ishida, justement, à Tokyo, à faire une conférence, à participer à un grand colloque. Et j'étais allé au Japon il y a des années, je n'étais pas retourné là aussi depuis longtemps. Et une semaine avant que je ne parte au Japon, qui était une fête pour moi parce que j'étais invité à Tokyo, mais aussi à Kyoto, où je n'étais encore jamais allé, un jeune philosophe de Lille, de l'université de Lille, qui est un philosophe extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il a fait une école de gestion et de marketing avant de faire de la philosophie, et qu'il est aussi un très bon artiste, s'appelle Ludovic Duhem, un type extrêmement intéressant. vient me voir, j'étais encore à l'IRCAM à cette époque-là, avec un cadeau, donc dans mon bureau ici. Et ce cadeau, c'était une photocopie d'une thèse de Jean-Marie André, qui s'appelle L'Ossium, à l'époque des Romains, Genèse du concept d'Ossium. Et cette thèse de Jean-Marie André, que j'emmène, qui est une énorme thèse comme ça, que j'emmène au Japon avec moi, parce que j'avais 12 heures d'avion à faire, et je me dis, je vais la lire dans l'avion. En lisant l'introduction dans l'avion, je découvre donc la thèse de Jean-Marie André consiste à dire que la pratique de l'ossium par les nobles romains, les nobles étant donc les guerriers auxquels on a donné des lopins, enfin des récompenses, des territoires, des esclaves, etc. La pratique de l'ossium a été développée par eux pour se soigner de la guerre, des horreurs qu'ils avaient rencontrées dans la guerre. Voilà ce que raconte Jean-Marie André, je résume très très vite. Je lis ça, et 4 jours après, je suis dans un des temples de Kyoto, un des plus fameux temples de Kyoto, assis avec Ishida Hidetaka, devant un jardin de pierre. Et au bout d'un quart d'heure, Ishida me dit, il faut que je vous explique, Bernard, comment sont nés ces jardins de pierre et la cérémonie du thé. C'est apparu au XVIe siècle, du fait de grands guerriers, le Japon était en guerre civile à cette époque-là, qui, épuisés des horreurs et des massacres qu'ils avaient commis, se sont mis à développer des pratiques de ce type-là. Exactement ce que... Mais vraiment, je vous assure que je ne romance pas, c'était exactement ce que disait Jean-Marie André à propos des Romains. C'est ce qui m'amène à dire que l'ossium, c'est pas du tout simplement une détermination occidentale, mais que c'est une façon de pratiquer ce qui se pratique dans toutes les sociétés qui sont arrivées à un certain type de développement. Et si j'insiste sur le mot ossium plutôt que sur le mot scolaire, c'est parce que ossium est le radical de négocium. Et que dans la société romaine, on pense le négoce à partir de l'ossium, et non pas l'ossium à partir du négoce. C'est depuis la société qui domine, qui a la puissance, et qui s'appelle la noblesse, que le négocium est défini, et non pas l'inverse. Or, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien parce que jusque à la Révolution française, la société bourgeoise, la classe bourgeoise, est considérée être la classe du négocium. Et telle qu'elle n'a pas accès à l'ossium. Et en même temps, la montée en puissance de la bourgeoisie, qui est la modernité, la concrétisation de la modernité, ou je dirais des modernités, le fil qui relie toutes les modernités entre elles, c'est ce qui fait que progressivement, dès le Moyen-Âge, dans les bourgs, une puissance qui n'est pas la puissance à la fois ecclésiale et noble de ce qu'on pourrait appeler l'organisation monothéiste des empires est en train de se mettre en place comme une puissance de calcul. C'est la puissance des négociants. Ces négociants progressivement s'approprient l'ossium. Il est évident que qu'est-ce qui se passe au musée du Louvre, par exemple? Qu'est-ce que cette ouverture du musée du Louvre à tous les bourgeois? Parce que c'est aux bourgeois que c'est ouvert, pas aux prolétaires. Bien sûr, c'est ouvert à tout le peuple, mais le peuple désigne la bourgeoisie. C'est un peuple censitaire. C'est l'ouverture de l'accès à l'ossium pour ceux qui sont dans le négocium. Et ça, c'est ce qui va se concrétiser, et ce que décrit Max Weber aussi, c'est exactement ça. Chez Max Weber, ça passe par d'autres voies que ce que je viens de décrire avec la France, avec la Révolution française, exactement. Eh bien, ça, c'est ce qui est en train de s'effondrer. Ce qui est en train de s'effondrer et qui est en train de laisser la place, finalement, donc, à un capitalisme sans bourgeoisie, c'est-à-dire sans modernité, et donc à une modernisation sans modernité. Mais je dirais, je vais m'arrêter là, je suis désolé, j'ai fait un exposé un peu chaotique parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, toutes mes feuilles sont mélangées. Bon, c'est mon troisième exposé aujourd'hui. Je dirais que pour ouvrir la discussion plus qu'autre chose, que pour moi cette question, c'est une question de réorganisation de la libido. Il est impossible que de l'investissement se produise sans que une projection sur un autre plan se fasse. Cette projection sur un autre plan, ce qu'on a appelé la modernité, au sens où par exemple on dit que Baudelaire est moderne, au sens où Benjamin a parlé de modernité, c'est l'autre plan comme plan d'immanence qui produit de la consistance au sens où Deleuze parle de cela. Je veux dire par là que nous sommes, la modernité, c'est ce qui liquide la transcendance, d'une manière ou d'une autre, mais ce qui pour autant n'efface pas une différence entre l'osium et le négocium. L'investissement de la bourgeoisie, par exemple, dans l'art moderne, c'est ce qui pose qu'il y a un plan de l'incalculable dans l'immanence. Et on pourrait développer cela sur toutes sortes de plans, et pas simplement dans le domaine de l'art moderne. Lorsque Luc Boltanski et Eve Chapello, dans leur introduction au Nouvel Esprit du Capitalisme, qui est un livre vraiment important, je l'ai beaucoup critiqué, mais c'est beaucoup critiqué parce que je considère qu'il est très important, sinon je n'aurais pas parlé. Lorsqu'ils disent qu'il y a une démotivation qui est en train de se produire dans le monde du travail, c'était en 99, ça va bientôt faire 10 ans que ce livre a été écrit, et qu'ils montrent que le capitalisme ne peut plus fonctionner parce qu'un capitalisme sans un esprit du capitalisme ne peut plus fonctionner, conduit inévitablement à une société extrêmement autoritaire, c'est-à-dire à ce que j'appellerais avec Tom Cohen une oligarchie. Nous voyons bien que la question de la motivation, c'est-à-dire de la libido, est une question politique de tout premier plan. Ou bien nous avons la capacité à réinventer une économie libidinale, et peut-être nous échappons à une oligarchie, et peut-être nous pouvons imaginer de reconstituer un deuxième souffle de la démocratie. Et j'affirme, moi, que je suis très attaché à la démocratie, ici. C'est aussi mon... La modernité, c'est aussi la démocratie. C'est aussi la montée en puissance de la démocratie. Ou bien, voilà mon scénario, nous aurons droit à l'oligarchie. Et probablement une oligarchie extrêmement sanguinaire. Parce qu'elle ne pourra se maintenir au pouvoir qu'au prix d'énormes processus répressifs. On sait très bien que quand l'économie libidinale ne marche plus, la seule chose qui marche, c'est la répression. Et ça, c'est ce que Marcuse avait déjà identifié comme étant la figure de ce que j'ai commenté comme étant le surmoi automatique. C'est-à-dire l'imposition d'une surmoïsation exclusivement répressive et en utilisant les technologies de contrôle comme système d'automatisation, que ce soit à travers des radars qui prennent en photo automatiquement les gens sans qu'il n'y ait plus de flics pour témoigner. Il n'y a plus de témoins. C'est ça la grande nouveauté de ces radars, hein, c'est fondamental. Plus besoin que quelqu'un dise « je jure », ça ne marche plus du tout comme ça. C'est une désubjectivation de la loi qui conduit à une surmoïsation automatique, donc à des préconisations de dépistage des enfants difficiles, etc., etc. Autrement dit, à une mise en place d'une société extrêmement répressive. Bon, je n'ai pas du tout fait ce que je voulais faire, mais tant pis. Ça sera peut-être une autre fois. Peut-être juste pour conclure, et que vous compreniez bien pourquoi je veux que nous parlions de Ulrich Beck. Je vais vous faire une citation d'Ulrich Beck, celle que tu m'évoquais autrefois, et que j'ai citée dans un livre tout récemment. C'est la page 184 de La Société des risques aux éditions Flammarion. Beck dit ceci, très intéressant, écoutez bien. Les normes concrètes, les valeurs et les modes de vie caractéristiques des hommes vivant au sein du capitalisme industriel sont moins le produit de la culture de classe industrielle, au sens où l'entendait Marx, qu'un reliquat de tradition pré-capitaliste, pré-industrielle. En ce sens, la culture du capitalisme, entre guillemets, est moins une création autonome qu'une phase tardive de la société par État, autrement dit la société traditionnelle, le tiers État, etc., modernisée, consommée et donc transformée et digérée dans le système du capitalisme industriel. Le désenchantement, entre guillemets, ne porte donc jamais sur cette culture même. Il reste un désenchantement des styles de vie et des formes de liens traditionnels non modernes, qui sont ce qu'il s'agit de désenchanter, mais ne cessent de se régénérer, de se maintenir, et alimentent donc éternellement le désenchantement dans son inextinguible accomplissement. Ça, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, la bourgeoisie qui sans cesse reproduit des valeurs de l'osium, etc. C'est l'exploitant d'une mine qui en même temps mène sa fille vers la pratique de Schubert, les choses élevées, etc. Voilà ce que dit Ulrich Beck, page 584. Mais il ajoute, à propos de ce qu'il vient de dire, c'est vrai de l'évolution jusque dans les années 1950. Mais cela n'est plus vrai de l'évolution postérieure. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Et je pense que, qu'est-ce que les années 50, c'est Héros de la civilisation, c'est ce que Marcus commence à décrire. C'est le début de la télévision qui se déploie. Et c'est qu'il est en train de préparer l'effondrement de l'État-providence que va décrire justement Boltanski dans le nouvel esprit du capitalisme, et qui va conduire finalement à ce qu'on va appeler la société postmoderne, à ce qu'on va appeler la financiarisation, et bref, à tout ce que précisément je décris comme modernisation sans modernité. Voilà. Je m'arrête là, donc, sans avoir du tout parlé de ce dont je voulais parler, parce que j'ai pas tout fait. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire tomber les pages, voilà. Désolé.
On discute ?
Allons-y, si vous voulez. Mais faites-moi ça.
Moi, je poserais bien deux. Vous signalerez, disons, peut-être pour moi, en tout cas, deux champs d'interrogation. D'abord, avant de les formuler, on avait déjà abordé dans le séminaire, je me souviens qu'on avait discuté autour de la notion de ruse une fois. Donc, je pense qu'effectivement, l'analyse de cette notion est quelque chose d'assez déterminant.
On en a parlé au début.
Oui, on en avait parlé. Ouais. Donc personnellement, je pense que le fait de marquer la distinction entre la modernisation, entre modernisation et modernité est une nécessité conceptuelle et finalement politique.
Aussi, hein.
Donc là, évidemment, là-dessus, c'est, ça ne peut pas être là-dessus que porte mon interrogation. En fait, bon, pour ne pas être trop long, pour qu'on ait le temps de discuter plus largement... je vais essayer de résumer sur deux choses ce que je veux dire. En fait, ça serait peut-être qu'il en faudrait trois, mais enfin bon. Alors, est-ce que finalement, il faut pas dire, je sais pas, j'essaie évidemment d'écouter ce que tu disais, qu'il y a dans la notion de modernité quelque chose d'ambigu, aussi bien sur la notion elle-même que sur, la possibilité de fonder avec cette notion-là une position politique, finalement. Alors, je veux dire par là, l'ambiguïté, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté dans la modernité, une contradiction profonde, finalement, puisque tu cites Descartes, qu'on pourrait faire remonter au cartésianisme d'une manière générale, hein, au-delà de Descartes lui-même, une contradiction profonde qui serait liée au fait que les conditions de la maîtrise... dont la philosophie de Descartes serait la formulation, hein, qu'est-ce qu'il faut pour que on puisse tenir la phrase tâcher à se rendre maître et possesseur de la nature, quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il faut penser du sujet pour ça, etc., qu'est-ce qu'il faut penser de la conscience pour que ça soit tenable comme proposition. Donc il y a ça qui fonde le discours de la maîtrise, mais en même temps c'est miné, hein. Ça, c'est moi qui le dis, par autre chose qui est précisément la calculabilité. Autrement dit, que le référent moderne par excellence, le référent de la modernité par excellence, c'est une espèce de position philosophique qui elle-même est travaillée par une contradiction entre ces deux éléments. On pourrait retrouver cette ambiguïté de la modernité, en étant de notre point de vue, en disant qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on peut refuser, hein, pour le dire un peu rapidement, en disant non à la modernité comme maîtrise, hein, est-ce que c'est ça la position que tu voudrais soutenir, non à la modernité comme maîtrise, mais oui à la modernité dans la mesure où, justement, elle est ambiguë et où demeure... en un certain sens, au sein de cette modernité, comme un certain art de vivre privé, qui serait la bourgeoisie, enfin le mode de vie bourgeois, demeure au sein de la modernité, justement, le sens de l'osium. Donc, d'un côté, passer son temps à maîtriser le monde, mais d'un autre côté, mettre en place un mode de vie dans lequel l'osium n'a pas disparu. Là encore, ambiguïté.
Alors, je peux répondre là ?
C'est... Ouais, c'est...
Pour moi, il ne s'agit absolument pas de créer les conditions de protéger quelque chose comme des pratiques de la firme, de cette déferlante de la modernisation qui viendrait détruire, par ailleurs, je ne crois absolument pas à ça. Et quand je parle, parce que j'écris un livre en ce moment qui s'appelle « L'Osium du peuple », quand je parle de l'osium, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui serait une sphère qu'on protège, privée par exemple, ou pas privée, mais en tout cas en dehors de la vie. Non, c'est ce qui devrait être mis au cœur même. Je reprends le projet communiste de Marx. Au cœur même de la politique industrielle. De faire de toute l'activité industrielle. Parce que, n'oublions pas que ce matin, c'est ouvert à Paris la conférence mondiale sur le climat. Bon. N'oublions pas qu'il y a 20 ans, quand les premiers scientifiques ont commencé à parler de cela, ils se sont fait descendre par absolument tout le monde, à l'exception de quelques écolos, nuls en général. En général. Pas toujours, mais en général. Que tout le monde les descendait, les communistes les descendaient. Parce que c'était un modèle qui était anti-industriel, donc pas conforme au stalinisme. Les modernistes de l'État gaulien les descendaient, parce qu'ils étaient pour, un État qui prenne... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le savez bien. Tout le monde les a descendus, moi compris. Moi compris. Je me suis souvent trompé dans la vie. Ce qui est grave, ce qui est encore plus grave, c'est de ne pas s'en apercevoir. Aujourd'hui, 90% de la communauté scientifique est acquise à la thèse que cette déstabilisation des grands ordres, des grands équilibres de ce qu'on appelle le système climatique est certaine et sera, avec le rapport Stern, maintenant on a quantifié ça, extrêmement coûteuse, non seulement pour l'humanité, parce que je dirais que peut-être les grands capitalistes s'en foutent de l'humanité, puisque de toute façon c'est très très coûteux le capitalisme pour l'humanité en règle générale, à voir ce qui se passe à Rio ou ailleurs, bon. Mais très coûteuse pour le capitalisme lui-même. Et je crois que la question de la modernisation, c'est dans ces termes-là qu'elle doit se poser. C'est-à-dire que nous avons, qui ça nous, les pays qui ont une expérience suffisamment longue de l'industrialisation et du marketing pour en avoir atteint les limites. Et pour savoir à quel point cela nous rend malheureux, cet état de fait. Ça détruit la psyché de nos gamins, etc. Pour une grande part. Nous avons une responsabilité d'inventer des nouveaux modèles industriels moins toxiques. Toute activité humaine est toxique, hein, quelle qu'elle soit. Moins toxique. Et je pense que ça passe parce que dans une association que je préside en dehors de mes activités ici, Ars Industrialis, avec Georges Collins, nous appelons des technologies de l'esprit. Et donc, le développement d'une volonté, je dis bien d'une volonté de généralisation de l'osium dans la vie économique même. Quand on parle de capitalisme cognitif, de technologie de la connaissance, d'industrie c'est de ça qu'il s'agit. Pour revenir à ta question, la modernité, ça n'existe pas. J'ai essayé de le dire souvent, il y a des modernités. Il y a la modernité cartésienne. Cette modernité cartésienne, c'est une modernité de la maîtrise. C'est-à-dire une certaine figure de la volonté. Une des erreurs, à mon avis, qu'a commise la French Theory, dont je crois celle de part en part, moi j'ai été formé entièrement, c'est de confondre volonté et maîtrise. C'est la même erreur que Heidegger. C'est le côté heideggerien de toute cette pensée philosophique française. Qu'elle soit deleuzienne, foucauldienne, derridienne, lyotardienne et tant d'autres, lacanienne, peut-être pas Althusser, mais elle est, sur ce plan-là, heideggerienne. Pourquoi est-ce qu'elle est heideggerienne? Parce qu'il y a une autre pensée de la volonté, qui n'est pas du tout une figure de la maîtrise, c'est celle de Nietzsche. Nietzsche rigole de la maîtrise. Et qui a construit le premier, le sujet cartésien? C'est Nietzsche. C'est pas du tout Derrida ou Foucault ou Deleuze, c'est Nietzsche. Seulement, Nietzsche pose que derrière cette volonté, il y a un autre objet dont Heidegger n'a jamais dit un mot. Ça s'appelle le désir. Et Nietzsche arrive 10 ans avant les études sur l'hystérie de Charcot et de Freud. Et il meurt, enfin il ne meurt pas, mais il devient fou, comme vous le savez, en 1884, ou 5, je ne sais plus. Bon. juste au moment où Freud se met à étudier les fous, d'ailleurs. Très intéressant, cette espèce de jonction-là. Ce tuilage, comme dirait la CFDT dans ses vos questionnaires. Très fier de mes syndicats français aujourd'hui. Alors, est-ce que la volonté serait due à la maîtrise? Ben, certainement pas. Et il y a une volonté de maîtrise qui s'appelle la volonté de compter, mais une autre volonté qui est la volonté d'affirmer la singularité et de faire de l'excès un processus d'individuation. C'est Dionysos. C'est ce que Nietzsche pense avec Dionysos et ce que Freud va penser avec le principe de liaison des pulsions. Moi, je suis un peu, un gros bourrin, là, je redis toujours la même chose. Le capitalisme, jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas, à part par Marcuse, été étudié comme il doit l'être, à savoir comme une économie libidinale. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas été? Parce que le marxisme a empêché cette étude. Parce que le marxisme s'est méfié, comme de la peste, de la théorie psychanalytique, parce que pour les marxistes, la théorie psychanalytique, c'était la théorie de la névrose. Alors la théorie de la névrose, c'est la théorie de la bourgeoisie. La névrose, c'est bourgeois. Moi, au Parti communiste français, on m'a répété ça. J'ai été membre du parti pendant pas mal d'années. On m'a répété ça sur tous les temps. Mais chez les trotskistes, on me l'avait dit aussi. Des trucs de bourgeois. Alors d'abord, on identifiait bourgeoisie et capitalisme, ce qui est une énorme erreur. Parce que le capitalisme existe toujours, la bourgeoisie n'existe plus. Et je dirais que le capitalisme est d'autant plus virulent qu'il n'y a plus de bourgeoisie. Le problème, c'est qu'il y a plus, le problème des psychanalystes, c'est plus la névrose. Ce matin, j'étais à l'hôpital Marmottan, d'ailleurs, avec des psychanalystes et des psychiatres, et ce à quoi ils ont affaire, c'est plus la névrose. C'est l'addiction, c'est la psychose. Bien sûr qu'il y a encore des névrosés, mais c'est des espèces de reliquats du XXe siècle. Ils sont confrontés à d'autres problèmes autrement plus graves. Mais la seule façon de penser ces problèmes, c'est de penser la libido. Et pourquoi est-ce qu'ils sont confrontés avec ces problèmes? Et ils en sont tout à fait d'accord, c'est parce que l'objet du désir n'existe plus. Et quand il n'y a plus d'objet du désir, il n'y a plus que l'objet des pulsions. Ces pulsions peuvent être de toutes sortes de natures, mais elles deviennent extrêmement destructrices. Il faut relier, ce qui évidemment renvoie à des questions de religion. Ça ne peut pas ne pas passer à un moment donné par la question du religieux. Il faut relier les pulsions. Et ça, seule une économie peut le faire. Et moi je dis que cette économie doit être industrielle, je l'appelle une économie hyper-industrielle. Et elle doit développer l'osium comme étant le cœur de l'activité économique. Ce qui n'est pas du tout une absurdité. Si on dit que l'osium, c'est ce qui donne accès à ce que chez les philosophes comme Husserl appelle les idéalités, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire la prise sur le réel, c'est-à-dire aussi la calculabilité. Parce que pour qu'il y ait du principe de réalité, encore faut-il qu'il y ait du principe de plaisir. Que je sache, les corbeaux ne comptent pas, contrairement à ce que les ânes répètent, en disant qu'ils savent compter jusqu'à 12, lorsqu'on dit ça. Les ânes disent, les corbeaux comptent jusqu'à 12. Non, les corbeaux ne comptent pas. Les corbeaux dénombrent, c'est pas du tout la même chose. Vous pourriez me dire, non, c'est le contraire. On va dire, les corbeaux ne dénombrent pas, ils comptent. Bon, peu m'importe. Ce que je veux dire, c'est que, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, quand j'ai fait un commentaire de la critique de la raison pure. Qu'est-ce que ça veut dire compter? Ça veut dire être capable d'inventer le zéro. Et pour pouvoir inventer le zéro, il faut inventer des techniques de grammatisation qui permettent d'accéder au zéro. Alors, pour pouvoir accéder à ces techniques de grammatisation et au calcul, il faut être capable de passer par l'incalculable. Voilà. C'est la condition fondamentale. C'est-à-dire, ce qui donne cette capacité à calculer, c'est une volonté de puissance, en effet. Une volonté de puissance qui n'est pas une volonté de maîtrise du tout, et qui est une volonté de puissance débordante, un excès qui passe par une technicité et qui se. Voilà. Et moi j'aurais tendance à dire que Apollon, c'est pas simplement la figure du beau et de l'art chez les Grecs, c'est aussi la figure de la technique. Mais ça, ça reste à prouver. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, et j'ai des raisons très positives de penser que c'est tout à fait imaginable et faisable, il est fondamental de reconstruire une politique de la singularité. J'ai des raisons de le croire, parce que, je l'ai déjà dit d'ailleurs Pierre Damien, on a souvent parlé ensemble, en dehors de ce séminaire, parce que moi j'ai des discussions aujourd'hui avec des grands acteurs de l'économie qui cherchent qui réfléchissent, qui voudraient que je travaille ou que l'arsenal industriel travaille pour eux, parce qu'ils cherchent à essayer de reconsidérer entièrement une économie de la singularité. Ils ont compris, alors c'est beaucoup dans les secteurs de la mode, etc., et du luxe, bien sûr, mais ils ont compris qu'ils sont tombés dans une impasse. C'est ça que j'appelle la volonté. Le désir veut. Si je tombe amoureux d'une fille, je la veux. Si je tombe amoureux d'un tableau, je le veux, quitte à le voler, ça arrive. Les vrais amateurs d'art sont des voleurs. Parce que l'amateur est sans condition, il aime sans limite. Un vrai amateur, c'est le bibliomane, non, c'est le premier texte de Flaubert, hein, le bibliomane qui va être prêt à faire n'importe quoi pour avoir ce manuscrit. Bon. Et c'est ça qui fait qu'une société s'individue. C'est qu'il y a du désir de cette nature. Une question, et c'est, est-ce que ça repasse nécessairement par le religieux et la transcendance? Ma réponse est clairement non, pour moi. Mais il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Il y a des gens pour lesquels ça passe nécessairement par une religiosité. Je pense que c'est extrêmement dangereux, mais je pense pas qu'il faille non plus maîtriser ces positions. Ce sont des vraies questions. Là, si j'ai proposé à David Robert Dufour de venir parler dans ce séminaire, c'est notamment parce qu'il parle de ces questions, dans ses deux derniers livres. Excuse-moi, j'ai répondu trop longuement.
Oui. Mais en fait, si tu veux, ma question, en fait, elle portait sur ce qu'on fait du mot, pour le dire en première approche, quoi, du mot modernité dans cette affaire, c'est-à-dire, est-ce qu'on le soutient? Je ne dis pas le reprendre, parce que ça serait très, très ambigu, parce qu'il faut chercher à ce moment-là à quelle modernité on fait référence, mais est-ce qu'on soutient ce mot? Et si on le soutient, alors justement, à quoi on le réfère pour le soutenir? C'est ça ma question en réalité.
Moi j'ai envie de le soutenir. J'ai envie de le soutenir pour deux raisons. C'est parce que je pense que la modernité, de toute façon, passe par la mise en place de conditions qui sont encore celles qui nous gouvernent. L'industrialisation, etc. La sécularisation, le processus de désenchantement. Donc j'ai envie de le soutenir pour cette raison-là, d'abord. Et deuxièmement, parce qu'à travers ça, je veux affirmer mon attachement à un héritage. L'héritage de la modernité. Je pense que le balayage qui a été fait au nom de la postmodernité ou de la déconstruction de la modernité est un balayage hâtif. Je m'étais un tout petit peu, à un moment donné, retrouvé en froid avec Jacques Derrida sur ce sujet. Parce que j'avais écrit « La critique de la raison pure, on ne peut pas la liquider comme ça par perte des profits, comme ça a été fait par la déconstruction. » Il n'avait pas très bien pris. Mais ça voulait dire que moi je considérais que non, le bilan n'était pas fait du tout. Sur Nietzsche par exemple, comme on vient de le dire aussi, tu te souviens, on était ensemble un jour, on avait une longue discussion sur Nietzsche. Bon, Derrida avait quand même tendance à dire que le cas Nietzsche était réglé. Pour moi, il n'est pas du tout réglé. Le cas Freud n'est absolument pas réglé. Etc. Et tout ça pour moi, c'est la modernité. Le cas Benjamin n'est pas réglé. Très très loin de là. Donc, il y a énormément de... Donc, c'est en ce sens-là que... Bon, alors, après, le problème de savoir ce que c'est comme modernité, je dirais que ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est les énoncés pratiques. C'est-à-dire les schèmes moteurs. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie politique? Bon. Alors, nous n'avons jamais été modernes, dit Bruno Latour. Ça suppose de se poser la question de savoir ce que c'est que être moderne. Moi, ça ne m'intéresse pas. L'ontologie de la modernité, je m'en bats l'œil. Par contre, il y a, je crois, une période qu'on appelle moderne, dans laquelle il se passe des choses. Voilà. Et ça, je veux le soutenir, effectivement, pour reprendre ton mot. Maintenant, la condition, c'est évidemment, comme toujours, de réinventer un sens de la modernité. Après, tout ça, c'est nominaliste, à un moment donné. Hein, je veux dire qu'on appelle ça modernité autrement. Moi, je dirais un projet politique.
Est-ce que je pose ma deuxième question, ou bien est-ce que... Bon, alors, justement, c'est autour du projet politique ou de l'action. Donc, tu dis qu'il faut réinvestir d'un projet politique. Puis j'ai noté aussi réarmer une action, quelque chose de ce type-là. Hein. Donc, ça, ma question porte pas évidemment sur cet objectif. Hein. Mais peut-être sur les conditions de ce réarmement. Donc tu disais il y a quelques minutes dans ton exposé qu'il faut mettre la technique au cœur de ces questions. Donc ça, je crois qu'on est évidemment absolument d'accord là-dessus, que la modernisation est toujours l'adoption de on pourrait dire, de puissances techniques qui sont bouleversantes et qu'il faut précisément adopter. Mais alors, là où je voudrais peut-être suggérer, une précision, ou te demander une précision, ça serait sur le point de savoir si pour, procéder à cette adoption des techniques bouleversantes, et au fond aussi pour qu'un réarmement de l'action politique soit lui-même possible, il ne faut pas passer, je donne un mot là pour travailler, pour réfléchir. Je ne sais pas si je soutiendrai ce mot, mais il faut passer par une médiation qui serait, l'esthétisation des techniques en question. Hein. Je ne parle pas de l'esthétisation de la politique, hein, pas du tout. Mais ma question porte là-dessus, c'est-à-dire au fond, pour la dire avec un vieux vocabulaire ou un ancien vocabulaire qui est peut-être pas justement vieux, est-ce que pour soutenir la praxis politique, il ne faut pas justement qu'il y ait de la poiesis, des modes de fabrication qui, en particulier, soient attentifs, je ne sais pas comment dire ça, au paysage sensible, quoi, au monde sensible que les avancées techniques fabriquent, produisent, quelque chose de ce type-là. Autrement dit, quel est le statut c'est pour ça que moi j'avais envisagé la discussion avec, par exemple, des architectes, quoi. Quel est le statut d'un certain genre de fabrication, vous voyez, qui ne sont pas des actions, qui ne sont pas non plus seulement des techniques. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et voilà le champ de questions.
Avant de te répondre, je donnerai deux précisions, ou souligner deux choses. Tout à fait d'accord avec tes considérants et avec même cette proposition. Je vais y répondre précisément mais positivement. Je dirais juste que la modernité, c'est aussi ce qui, à un moment donné, la modernité et ce qu'on appelle la modernisation. C'est ce qui procède d'un passage de la technique à la technologie. Et je pense qu'un impératif fondamental, c'est de comprendre ce qui constitue la différence entre technique et technologie. Mais pas du tout dans un modèle heideggerien. Du tout, du tout. Que lui, Heidegger appelle la technique moderne. Et deuxièmement, la modernité, puisque tu as employé le mot d'adoption, que tu avais déjà employé avant, oui, mais qui appartient à tout le monde, mais que j'ai beaucoup employé en effet, mais pour moi, la modernité, c'est un modèle de l'adoption qui se revendique comme tel. C'est-à-dire qu'il faut adopter, quoi, à tous égards. Donc c'est vraiment une façon d'organiser l'adoption. J'ai soutenu, moi, la thèse que l'être humain est un être adoptif, fondamentalement. Il n'arrête pas d'adopter des enfants, des techniques, des idées, etc. Mais qu'il y a des régimes d'adoption, en revanche, et qu'on peut décrire toutes les formes de société, le chamanisme, la société impériale, etc., comme des modèles d'adoption. En général, ce sont des modèles d'adoption qui consistent à occulter que l'adoption est une adoption. Dans la modernité, l'adoption se pose comme telle. C'est ce qu'on appelle être à la mode, par exemple. J'adopte un truc comme ça. Bon. Et ça, Baudelaire est une figure fondamentale d'affirmation de ce passage. Bon. Alors, maintenant, pour en venir à la question de l'esthétisation, ben justement, je viens de parler de la mode. Bon. Je te répondrai oui, mais un peu avec des pincettes. Pas du tout, parce que Lacoux a parlé de l'esthétisation du politique, etc. On a bien compris que c'était encore autre chose. Même si, justement, quand même, ces ambiguïtés sur l'esthétisation du politique qui remontent pas à Lacoux, mais à Benjamin et à Freud. Je dis à Freud, parce que quand Freud parle du développement des industries culturelles, qu'il n'appelle évidemment pas comme ça, et qu'il les décrit dans malaise dans la culture, comme étant la montée du fascisme, parce que c'est quand même ça qui est en train de... c'est d'une certaine manière très proche de ce que décrit Benjamin dans l'esthétisation, comme étant l'esthétisation de la politique. Hein. C'est souvent une façon de ne pas penser l'esthétisation de l'économie, poser cette esthétisation de la politique. Or, au moment où cette esthétisation de la politique se fait par l'intermédiaire des nazis, des fascistes italiens, du totalitarisme stalinien, etc., se produit aussi une esthétisation de l'économie en Amérique du Nord. Chez Ford, justement, avec le développement du design, mais aussi au Bauhaus, mais aussi, sujet dont tu as beaucoup parlé, donc tu es un spécialiste. Et Et c'est très 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 important, cette esthétisation de l'économie. L'économie capitaliste est une esthétique. Fondamentalement une esthétique. Sinon elle ne marcherait pas. Parce que pour pouvoir canaliser le désir, il suffit pas de faire une émission de télévision avec Patrick Lelay, il faut aussi avoir des stratégies d'accroche par des politiques de couleur, par des politiques de forme, par des politiques de texture, par des politiques de toutes sortes de choses, par des politiques d'ajustement entre les objets et les corps. Il faut avoir une esthétique générale qui est en fait, moi je l'ai dit dans un colloque que j'avais organisé avec Georges Collins il y a 3 ans maintenant à Cerisy, une organologie générale. Une organologie générale. Cela étant, je te réponds positivement, une fois ces réserves faites, mais j'ajoute quelque chose de très important pour moi. Je te réponds oui, y compris parce que ce que je considère être un mouvement de l'amatora renaissant qui est en train de se produire en ce moment passe d'abord par l'esthétique. Les playlists, aussi vulgaires que ça puisse paraître. Les choses ne sont vulgaires qu'aux yeux des gens vulgaires. Il n'y a pas de choses vulgaires. Il y a des choses horribles, il y a des choses méprisables, mais il ne faut pas mépriser les choses et il ne faut pas les considérer comme vulgaires. C'est celui qui les voit comme tels qui est vulgaire. Donc la playlist, par exemple, ce n'est pas vulgaire. C'est un objet de pensée. Et cet objet de pensée, c'est la première apparition massive d'une pratique exploitée par l'industrie des télécommunications pour... récupérer la misère symbolique des enfants et faire que, à travers CASA ou des centres de peer-to-peer, etc., ils reprennent une place dans l'échange symbolique. Mais ça donne très très vite ce qu'on a développé ici à l'IRCAM, notamment quand j'y étais, c'est-à-dire des logiciels extrêmement formidables pour les amateurs et qui leur permettent de faire vraiment de la musique. Et je vous signale qu'il y a 1 million de personnes en France qui font de la musique sur ordinateur et qui font vraiment de la musique. C'est colossal, quand même. Alors, oui, l'esthétique, certes, et les technologies dont nous parlons, qui sont des technologies de ce que j'ai appelé les milieux associés et les milieux dissociés, donc qui sont ce que j'appelle les technologies du symbolique, ce sont des technologies esthétiques. Mais ce sont aussi des technologies cognitives. Ce sont aussi des technologies de l'intellect. Et moi, je crois que la partition entre esthétique et intellect, qui est absolument indispensable, on en est bien d'accord, hein, je ne suis pas en train de vouloir refaire une unité de la raison pré-kantienne où on reconstituerait... le cognitif, le moral et le jugement de goût en un seul jugement qui serait dans l'unité de quoi ? De Dieu, bien entendu. Parce que c'est ça, Dieu. Hein. C'est pas du tout ce que je veux faire, qu'on se comprenne bien. En revanche, je pense qu'on peut pas avoir une politique de l'esthétique sans avoir une politique du cognitif. Et c'est pour ça que quand on développe les lignes de temps en ce moment à l'Institut de Recherche et Innovation, ou quand on a développé ici à l'IRCAM les Music Labs, c'est-à-dire les logiciels d'analyse, ce sont des machines cognitives. Mais ces machines cognitives servent à intensifier des expériences esthétiques. Donc ça ne veut pas dire que l'esthétique est réductible au cognitif, ni le contraire, mais ça veut dire qu'ils fonctionnent ensemble. C'est ce que j'appelle, moi, la convergence des consistances. Donc, je pense que c'est... Et ça, c'est ce que j'appelle aussi une politique de l'esprit. Parce que finalement, c'est ça, l'esprit. Et moi, j'aime beaucoup ce mot d'esprit. Je sais qu'on ne l'emploie pas facilement, parce qu'en anglais, spirit, ça sonne pas du tout comme chez nous. Mais ce mot d'esprit, je le trouve magnifique. Y compris, il renvoie au mot d'esprit, c'est-à-dire à l'inconscient. Voilà. Et je crois, d'ailleurs, pour revenir sur ta question précédente en répondant ici, que la politique dont je parle, de la volonté dont je parle, c'est une politique de l'inconscient, c'est-à-dire du mot d'esprit. Il faut faire place à l'inconscient. Et on peut avoir une politique de l'inconscient. C'est ce que fait un psychanalyste. Hein. Un psychanalyste, c'est quelqu'un qui a une politique à deux, une politique de l'inconscient. Sinon, il n'y aurait pas de psychanalyse possible. Il faut donc avoir une technique de convocation de l'inconscient.
Je pense à un dialogue possible qui s'est esquissé une première fois, à mon avis, c'était l'année dernière. C'était absolument mort-né, ce dialogue, entre Pierre Nora et un anglais qui s'appelle Perry Anderson.
La pensée tienne.
Et la pensée faible, tiède.
Tienne.
Je ne pense pas du tout à ce livre-là, je pense à Perry Anderson et à un de ses premiers livres qui parle du marxisme occidental. Et la thèse de ce livre, que je résume donc à coup de hache, c'est terrible de devoir faire ça, c'est que le marxisme occidental, c'est un recul génial, massif, et finalement assez catastrophique, des thèses de Deuxième Internationale, qui établissait donc l'économie en dernière instance, pour pouvoir interroger le monde de la culture. Et moi je pense qu'en 2007, quand Perry Anderson est beaucoup plus actif et beaucoup plus fécond que pourrait le laisser penser dans ce petit pamphlet, là ça serait vraiment bien qu'on interroge sur cette nouvelle conception de l'économie qui s'esquisse dans ce séminaire.
Ah oui, oui, oui. Où est-ce qu'il est?
Il est à Oxford. Et puis il passe la moitié de son temps en Californie. Et moi je veux bien me charger là.
Ah oui, oui, oui. Moi je trouve ça très intéressant. Oui. Très, très intéressant. Je connais pas, moi. Hein. Je connais à peine ce bouquin, La Pensée tiède, là, qui est un. Pas très intéressant. Qui soulève une question, mais je connais pas.
Je vais emprunter en la déformant forcément, mais la typologie extrêmement féconde que vous adoptez souvent, Bernard, et à partir de laquelle vous avez écrit des bouquins, et qui sert quelquefois, moi, de grille de lecture, celle des niveaux auxquels individus et peuples sont assujettis, ou en tout cas sont susceptibles de répondre, au niveau de subsistance, au niveau d'existence et au niveau de consistance. Donc le niveau de subsistance, c'est le bien, le niveau d'existence, c'est les liens, au niveau de consistance, c'est les riens, peut-être, hein. Bon. La question que je me pose, et ça fait assez longtemps que je me la pose, mais alors maintenant, elle nous éclate tous à la figure, celle de ce support physique que nous avons abîmé depuis 200 ans, qui s'appelle la biosphère, et donc cette question du changement climatique. Il y a encore 20 ans, on pouvait la traiter de manière, j'allais dire, intellectuelle, un peu comme, je pense à Nathalie qui, pillant un tout petit peu le roi Bourran, écrivait l'énergie et l'information, enfin, ce couple-là. Bon, on peut traiter des choses comme ça. Et puis, bon, la formation maintenant, hein, bon, l'énergie, tout s'est passé, etc. On peut se demander si aujourd'hui, au fond, c'est pas la première fois que l'humanité entière pourrait se mettre d'accord sur une question commune. Jusqu'à présent, l'humanité n'a jamais pu se mettre d'accord sur une question commune, puisque précisément, géographiquement et culturellement répartie, elle ne pouvait pas, par définition, se donner une question commune. À la limite, la technologie poussée au bout pouvait lui donner une question commune. Mais là, en l'occurrence, c'est l'excès d'usage de notre support commun qui va vraisemblablement devoir nous pousser à inventer très rapidement ce qu'on pourrait appeler une solidarité écologique internationale. Si on l'invente pas assez rapidement, ça va être des sources de violence considérables. Bon, alors, si cette question, un, est importante, il semble qu'elle le soit quand même, urgente, il semble qu'elle le soit, et commune, alors la question que je me pose, c'est de savoir si nous n'allons pas être obligés de nous intéresser dans les 50 ans à venir, dans les 20 ans à venir, davantage que nous le voudrions aujourd'hui, au niveau de subsistance, avec toute l'économie mécanique qu'il y a derrière, qu'au niveau de l'existence dont nous dont nous bénéficions déjà mal, hein, on le voit bien. Bon. Et alors, nous qui pensons avec vous que le niveau de la consistance, c'est vraiment le niveau du politique, vraiment, est-ce qu'on ne va pas être en situation de devoir renoncer fondamentalement, ce qui serait terrifiant, à ce niveau-là, pour nous caler collectivement dans le monde entier sur ce niveau-là, qui malheureusement est mécanique et physico-chimique, et dans lequel on va devoir avant tout éviter la double violence, celle du boomerang du physico-chimique sur l'individu et les peuples, et des violences qu'elle pourrait apporter dans les individus et les peuples entre eux, parce que ici, un degré de plus, ça va être terrifiant, là-bas, trois degrés, etc. Est-ce que cette question est une question pertinente et comment l'intégrer à cette problématique que vous avez si bien développée?
Je pense qu'elle est absolument, évidemment, totalement primordiale. Quand il m'arrive souvent de dire que je suis toujours marxiste aussi parce que je pense ça. De toute façon, c'est, si on ne traite pas à ce niveau-là, on ne traite rien du tout. Et par ailleurs, vous le savez peut-être, je crois que vous étiez là d'ailleurs, Marc Crépon m'a... Ah non, peut-être pas, non, vous n'étiez pas là. Mais il y a eu au Collège de philosophie, il y a une semaine, une journée, enfin une matinée sur mon travail, et Marc Crépon m'a interrogé sur ce sujet. Il m'arrive souvent que des amis, disons proches de Bourdieu ou directement encore dans l'influence de Pierre Bourdieu, des amis militants, soit, me disent tes histoires de misère symbolique, tout ça, c'est bien sympa, mais la vraie question, c'est la misère du monde, comme disait Bourdieu. C'est-à-dire, misère symbolique, c'est quand on a les moyens de l'éprouver, bon. Eh bien, je pense que c'est une erreur grave. C'est une erreur très très grave, d'abord parce que cette misère symbolique en France coïncide avec la misère du monde, précisément. Et qu'en plus, si la question qui se pose, alors puisqu'on parle des grands équilibres climatiques, etc., avec la localisation des effets qu'il va y avoir, en effet, dans certains pays, comme d'habitude, on le sait bien, dans les pays les plus exposés déjà à la misère économique, si cette question se pose, moi, ce que je dis, c'est que la seule possibilité, peut-être que je me trompe, bien sûr, mais c'est mon hypothèse de travail, la seule possibilité de trouver une réponse, s'il y a encore temps, ce qui n'est pas sûr, à cette situation, c'est absolument l'invention d'un autre modèle de développement. Et un modèle de développement qui n'est pas un modèle de décroissance, je ne vais jamais employer ce mot-là parce que c'est une aberration économique de parler de décroissance, mais qui est un modèle de croissance qui produit de la négentropie, et pas de l'entropie. Si on raisonne, puisque vous faisiez référence à information contre énergie, et c'est bien avant effectivement Attali que ça se pose, Simondon pose des problèmes comme ça. La question, c'est l'entropie. Quand je parle de perte du désir, libération de la pulsion, etc., c'est de la destruction de la négentropie. Le désir est négentropie, il produit de l'ordre, etc. Et donc, produisant de l'ordre, il produit du lien, produisant de lien, il produit de la stabilité, produisant de la stabilité, il produit de l'investissement. L'entropie, elle, fait de la déliaison, de l'atomisation, du désinvestissement, et donc conduit inévitablement à la guerre. Et ça, c'est une négentropisation extrêmement brutale qui se produit à chaque fois. Une guerre, c'est une façon de remettre de la négentropie, mais alors là, à la mitrailleuse, ou maintenant à la bombe atomique, ou à l'anthrax, et donc probablement avec rien du tout derrière, parce que là, c'est plus de la négentropie, c'est rien qui est derrière, vraisemblablement. Alors, que vous disiez, perspective d'un intérêt général. Si Beck m'intéresse, c'est parce qu'il a posé ça. Il a posé dans sa modernité réflexive, c'est qu'à un moment donné, qui que l'on soit, qu'on habite le 16e arrondissement, les favelas de Rio, etc., de toute façon, il y a un moment où on est tous pris, coincés dans le processus, et il parie, alors ça c'est en 86, hein, c'était il y a 21 ans maintenant, il parie là-dessus. Bon. C'est ça qu'il appelle société du risque et modernité réflexive. Après, la manière dont il déroule la chose, moi, me convainc pas trop. Hein. Elle est réappropriable par Guidance et Tony Blair, précisément pour cette raison qu'elle ne me convainc pas trop. Mais Dans ce contexte-là, il y a une solidarité absolue entre les problèmes de consistance et les problèmes de subsistance. Je veux dire, quand un bonhomme achète un 4x4, il y en a plein dans le parking, là, je ne peux pas me garer la seconde, parce que c'est des gros machins Mercedes, BMW, ils prennent deux places tout seuls. Chaque fois, je me dis, je foutrais bien une bombe sous ce truc-là. Et puis bon, je me dis, c'est plus de mon âge de faire ça. Donc je ne le fais pas. Et puis je pense qu'il ne faut pas faire ça. Et après, je pense aux propriétaires de ces voitures. Et je pense que beaucoup de ces propriétaires ne sont pas très heureux de ça. Bon. Mais ils sont prescrits par leurs enfants. Je commence ça très bien. La prescription automobile aujourd'hui, c'est essentiellement par les enfants qu'elle passe. C'est-à-dire que les campagnes de marketing sont de moins en moins ceux qui spéculent sur la phallocratie. Ça spécule toujours sur la phallocratie. Mais ça spécule de plus en plus par le tiers, l'espèce de tiers qui ne devrait pas être un tiers, qui s'appelle l'enfant. Il devrait être le contraire d'un tiers. Et bon. Mais ça, ça produit de la misère. Et c'est ça qui produit la misère dans le Sud, aussi. Et c'est pas seulement ça, mais c'est énormément ça. Puisque la misère du Sud, de quoi est-ce qu'elle procède ? Du détournement des richesses locales au service de la transformation dans les pays qui ne sont pas locaux. De la destruction des structures vivrières, enfin tout ça est archi connu, je dis des choses. Bon. Mais ça procède d'un mode de vie occidental qui a canalisé toutes ces énergies au sens d'un mode consommatoire qui est devenu mortel pour lui-même et pour ces gens-là encore bien plus. Donc, quand on dit abandonner les pulsions de 4x4, prendre le 4x4, c'est un cliché, bien évidemment, j'en suis conscient, hein, mais enfin, c'est une image que tout le monde comprend tout de suite. Bon. C'est au service de la possibilité de constituer des économies de subsistance d'un nouveau genre. Ça marche ensemble. Le Brésil est très intéressant à cet égard, d'ailleurs, parce que le Brésil, c'est un des principaux pourvoyeurs de carburant vert, etc. Bon. Et c'est vraiment... Alors, le Brésil, c'est un pays extrêmement paradoxal, parce qu'à la fois, il est un des plus exposés à ces misères dont on parle là, et en même temps, c'est un pays qu'on dit parfois ultra-moderne, y compris avec Brasilia, qui est une espèce, qui est une merveille de la modernité en architecture. Hein. C'est quand même quelque chose, c'est invivable, c'est magnifique. Donc moi, je pense que ces choses doivent être étroitement corrélées et étudiées ensemble. Maintenant, vous avez tout à fait raison, c'est un chantier, aujourd'hui, moi, je ne travaille pas. Ça, je suis tout à fait d'accord. Si je ne travaille pas, c'est parce que je n'en ai pas vraiment les moyens. Mais j'ai dans mon sac, là, la littérature d'économistes qui voudraient qu'on travaille dessus. Et ça va bientôt avoir lieu, probablement, par une connexion avec le groupe PKA, vous connaissez peut-être, et un certain nombre d'autres, qui sont des économistes qui essayent de penser dans ces termes-là, mais en économiste, c'est-à-dire, l'économiste, il travaille les subsistances, hein, ça c'est clair. Alors on doit se retrouver donc le 26 février ici même avec Marcel Gauchet et Luc Boltanski. Voilà, et donc on annule la séance du 12 février. Il faudra quand même signaler sur le net. Bon.